Bonjour. Résultat du sondage TNS Sofresse Logita réalisé les 8 et 9 juin. La cote de confiance de Nicolas Sarkozy a gagné 9 points en un mois pour atteindre 41% de tout à fait ou de plutôt confiant en Nicolas Sarkozy pour résoudre les problèmes qui se posent actuellement en France. Toutes mes félicitations, Monsieur le Président. Je lis également un peu plus bas que chaque jour, 2000 personnes se retrouvent en plus au chômage dans notre pays. Alors encore un petit effort, Monsieur le Président. Et selon la règle 2-3 toute simple que je viens d'effectuer, vous obtiendrez 100% d'opinion favorable en persévérant. Et si chaque jour, non plus 2000, mais 4878 personnes en plus se retrouvent au chômage. Allez-y, vous y êtes presque. Merci pour eux.
Ouais, salut à tous. J'ai entendu dire qu'il y avait des repères qui annonçaient que c'était le dernier repère de la saison. Ben, c'est pour vous annoncer que pour ce qui concerne le Var et le canton de Fayence en particulier, le repère de Tourette qui a lieu tous les deuxièmes vendredis de chaque mois et le repère de Montauroux qui a lieu aux Estérés du Lac tous les quatrièmes vendredis de chaque mois, ben, nous on fait pas de break en fin de compte. Que Mermet prenne des vacances et que l'équipe de la Bastille suit soit en reportage et qu'il y ait d'autres émissions l'été, ça fait rien. On continuera de faire les repères normalement. Alors comme on n'aura peut-être pas l'opportunité de les annoncer, ben, allez voir sur le site de l'émission et puis sur le site de labas.org, vous aurez toutes les dates des repères, on essaiera de les tenir un petit peu au courant. Donc le deuxième vendredi de chaque mois, c'est-à-dire ce vendredi à Tourette, chez Nico et Pascal, aux Latitudes, et puis le quatrième de vendredi de chaque mois, chez Hervé, aux Estérés du Lac, à côté du lac de Saint-Cassien. Si vous êtes en vacances dans le coin, passez nous voir. Ciao vive, portez-vous bien.
Bonjour, c'est Annick Guilbert. Ben, bonjour à toute l'équipe déjà. Voilà, j'appelle parce que je suis très étonnée. Depuis dimanche, rendez-vous compte, l'UMP est devenu vert. Là, j'écoute Yves Jégot sur France Inter, c'est hallucinant, quoi. Ils ont un culot formidable. Ils nous ont baladés avec le Grenelle. On a consommé encore plus de pesticides, plus d'engrais depuis le Grenelle. Et puis là, ils sont tous verts depuis dimanche. L'UMP est devenu vert. Formidable. À bientôt.
Bonjour. Je vous signale la création d'un nouveau café repère à Châteaulin dans le Finistère, au Run Harpens. La première séance aura lieu le jeudi 11 juin à 20h30. 19h pour ceux qui veulent partager un casse-croûte. Le thème sera « La faillite d'un système et maintenant qu'est-ce qu'on fait ?» Venez en discuter avec Jacques et les autres. Merci, merci. Au revoir.
Bonjour tout le monde. Alors, moi j'appelle pour réagir aux propos d'une dame qui a laissé un message donc mercredi en réaction d'une émission rediffusée sur donc le personnage de Dassault. Donc, alors cette dame a dit que si Daniel aurait connu cette ville de pauvres en banlieue, il aurait profité de ça aussi, donc de pouvoir profiter de la paix sociale qu'offre Monsieur Dassault. Donc juste pour dire que même si Daniel aurait profité de ça, l'essentiel c'est de prendre conscience que ce que fait Dassault, c'est juste acheter la paix sociale. Donc ce que je peux conseiller à la dame, donc la solution que je lui propose, c'est de réécouter les émissions de la Guadeloupe sur la Guadeloupe contre la profitation, parce qu'en banlieue, on lutte pour ça aussi. Donc nous, on n'est pas là juste à être pas de dominés, pas de dominants, quoi. Il n'y a pas moyen, comme on dirait à Toulouse. Voilà. Merci Daniel pour tout. C'était Mouna de Toulouse.
Il n'y a pas moyen, comme on dit à Toulouse. Merci Mouna, merci à tous vos... pour tous vos messages, amis auditeurs de là-bas, si j'y suis. Alors effectivement, la France a viré vert, là, en l'espace de quelques jours. On est tous verts et notre sujet du jour tombe parfaitement avec ce virage vert de la France. On est vert. Eh bien, le sujet aujourd'hui, c'est le Pérou. Pourquoi ? Parce que, vous le savez, on l'a évoqué hier et vous le savez, il y a eu des affrontements meurtriers ce vendredi dernier dans le nord du Pérou, dans la zone amazonienne du Pérou. Des indigènes, entre guillemets, en lutte depuis longtemps, qui bloquaient la circulation, qui manifestaient, ont été violemment réprimés par les forces de l'ordre péruviennes et on en est à, on pense, 30-40 morts. Il y a eu une manifestation d'ailleurs ce matin devant l'ambassade du Pérou à Paris. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est l'enjeu de ces confrontations entre un gouvernement péruvien plutôt à droite, plutôt néolibéral, sur ce qui est le souci de ces indigènes, c'est l'appétit et la cupidité des sociétés pétrolières qui entendent s'installer dans leur région, dans leurs territoires ancestraux. Et il y a d'autres prédateurs qui tournent autour de ces populations. Voilà pourquoi ces populations se défendent leur terre, défendent leur territoire, défendent leurs ressources et défendent aussi, évidemment, l'écologie dans ces régions. Voilà pourquoi et il faut, j'espère qu'ils le savent déjà d'ailleurs, ces indigènes vont voir arriver nos militants écologistes, nos nouveaux militants écologistes qui sont à la tête de notre pays. Alors voilà des échos de ce qui se passe au Pérou, à travers les radios. Les radios, on l'a vu en Bolivie, ont joué un rôle toujours très important dans ces conflits et dans l'histoire de l'Amérique latine, mais notamment dans ces régions-là. Et voilà ce qu'on peut entendre, ce qu'on pouvait entendre sur la radio de la Confédération nationale des radios du Pérou.
Chers amis de la Coordination nationale des radios, nous sommes en ce moment à Cusco, sur la place centrale, la place de Huacaipaca, une place historique où la société civile, les mouvements indigènes, les institutions viennent de se réunir pour manifester contre les derniers événements qui se sont déroulés en Amazonie. Nous sommes avec une professeure indigène qui est très représentative ici dans le sud.
Je m'appelle Hilda Cagnari-Loalsa. Nous sommes en ce moment en train de manifester sur la place d'armes parce qu'il faut que tout le pays sache ce que nous ressentons. Nous souffrons vraiment de la mort de nos compagnons, de tous ces gens comme nous, de la forêt vierge, qui ont été tués vraiment comme des animaux. Donc, pour faire respecter nos droits, pas seulement ceux des indigènes, mais ceux de toute la population du Pérou, parce que la forêt vierge est le dernier lieu où l'on protège la vie, où l'on maintient les arbres, où l'on maintient l'eau. Et c'est grâce à tout ça que nous pouvons vivre. Nous ne comprenons pas pourquoi la police les a tués. Nous souffrons et nous devons protester et continuer à lutter. On ne peut plus retourner en arrière. Le président Garcia, lui, doit faire marche arrière. Il doit comprendre que les lois qu'il a promulguées ne sont pas en notre faveur, mais contre nous. Nous, la seule chose que nous voulons, c'est protéger la vie. Pas seulement la nôtre, maintenant, mais plus tard, celle de nos petits-enfants. Nous voulons la vie, rien de plus.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est la Bessie, j'y suis avec Antoine Chao, Pérou, Bolivie, même combat.
El secretario general de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa,
a annoncé que tous les citoyens s'étaient mobilisés et a demandé l'arrêt des persécutions contre Alberto Pisango. Tous les citoyens arrivent à la place d'armes, la place centrale, pour protester contre les assassinats qu'a commis Alan Garcia contre nos frères d'Amazonie et contre les policiers innocents. C'est le peuple qui est envoyé contre le peuple. Nous exigeons aussi la fin des persécutions politiques contre nos compatriotes, contre notre compatriote Alberto
Pisango.
Voilà, rumeur radiophonique à travers le Pérou suite à ces affrontements meurtriers de vendredi dernier, donc dans le nord du Pérou, dans la partie amazonienne du Pérou. Depuis deux mois, dans cette région, des milliers d'indigènes bloquent les routes, paralysent l'activité pétrolière et manifestent contre l'exploitation illégale de leurs territoires ancestraux par des grandes compagnies pétrolières et aussi contre les traités de libre-échange. La police est intervenue pour débloquer les routes. Bilan des affrontements, 33 morts, dont beaucoup de policiers. Vous allez l'entendre dans un des témoignages qu'on a recueillis. La population, y compris la population indigène, soutient les familles des policiers et défend ces policiers qui ont été tués au cours de ces affrontements. On déplore des dizaines et des dizaines de blessés. Il y a beaucoup d'arrestations. Évidemment, les bilans sont contestés par les associations indigènes. On a des témoignages que vous allez entendre, et notamment, évidemment, par le leader indigène Alberto Pisango, auquel le Nicaragua a accordé l'asile politique. Alors, ça fait bien sûr beaucoup de bruit dans la région. Je le répète, le gouvernement péruvien est un gouvernement de droite ultralibérale, ce qui n'est pas le cas de la Bolivie, ce qui n'est pas le cas de Nicaragua et des pays, évidemment, du Venezuela. Et on soupçonne, bien sûr, on accuse même au niveau gouvernemental ces mouvements indigènes d'être soutenus par notamment la Bolivie. Donc il y a un risque de tension, même important, entre ces différents pays. Et évidemment, on l'a compris, c'est une lutte ancienne que celle de ces indigènes d'Amazonie pour leurs droits. C'est même une lutte qui dure depuis des siècles et qui est un des éléments de la politique actuelle et de la révolution en dents de scie, celle que nous avons appelée comme ça, cette révolution d'Annecy, que vit la Bolivie depuis 2005. C'est cette revendication de ces peuples. Et là, on va voir, parce qu'on se pose des questions, oui, mais dérives ethniques possibles, etc. En tout cas, là, on voit ce conflit dans sa brutalité, la brutalité des prédateurs qui, aujourd'hui, continuent de vouloir, bien sûr, s'approprier les ressources, l'espace, et jusqu'à la culture, et on peut le dire, s'approprier une civilisation. C'est pour ça que c'est important, surtout dans cette France devenue entièrement verte, de passer quelques instants au Pérou, dans le nord, donc du Pérou, Bolivie, Pérou, même combat. Comprendre ce qui se passe au Pérou, finalement, c'est assez facile, puisque c'est des situations, des tensions, des affrontements qu'on a connus dans beaucoup de pays d'Amérique latine. Suite à ces affrontements meurtriers, mortels en Amazonie péruvienne de vendredi dernier, il semblerait qu'aujourd'hui le gouvernement ait un petit peu, se soit un peu replié, se soit ait tenté de calmer les choses, suite notamment à la démission d'une ministre après ces affrontements mortels. Pour tenter de comprendre ce qui se passe, quels sont les enjeux, avec Antoine Chao, on a joint au téléphone Roger Rourmil, qui est un chercheur, un intellectuel et un anthropologue péruvien.
Bueno, hace dos meses,
bon, il y a deux mois déjà,
los indígenas amazónicos,
les indigènes d'Amazonie
empezaron una mobilización
ont commencé
générale,
une mobilisation générale, une grève générale,
a raíz de que el gobierno,
après que le gouvernement,
para la implementación,
pour compléter,
para la
pour exécuter le traité de libre commerce, l'ALCA, avec les États-Unis,
emitió
a promulgué une centaine de lois. Et pour une dizaine de ces lois, les indigènes considéraient qu'elles attentaient à leur liberté et à leur survie, parce que ce sont des lois qui impactent leur territoire ancestraux. L'année dernière, il y a eu une première manifestation, mobilisation en mois d'août. Et cette manifestation a permis d'obtenir des dérogations pour deux de ces lois. Après cette grève de l'année dernière, il a été formé une commission multipartite, intégrée par tous les partis politiques qui siègent au Congrès, pour étudier les autres lois, les autres normes. Et donc tout dernièrement, quand cette nouvelle mobilisation a commencé, les trois partis se sont mis d'accord pour n'accorder aucune dérogation. Et c'est à ce moment-là que les associations indigènes ont commencé à se battre dans toute l'Amazonie. Dans l'Amazonie, on compte 300 000 habitants indigènes, qui correspondent à 13 familles ethnolinguistiques et 63 peuples. Donc, tout dernièrement, vendredi 5 juin, les indigènes qui avaient bloqué la route de Bagua étaient installés dans un endroit qui s'appelle le virage du diable. Et la police a décidé de les déloger violemment en utilisant des armes. Donc il y a eu un affrontement violent entre la police et les indigènes jíbaros. Et il y a eu à peu près 25 policiers morts. Et officiellement 9 indiens aussi décédés. Mais les chiffres sont certainement supérieurs parce que le gouvernement a décrété l'état de siège. Dans la zone où les événements violents ont lieu, qui s'appelle Bagua, dans le nord du pays, et le gouvernement a décrété l'état d'émergence, l'état de siège, à 3 heures de l'après-midi, pour pouvoir faire disparaître les traces, les indices, ramasser les corps des indigènes. Il y a des témoignages de femmes qui ont vu des dizaines de cadavres d'indigènes sur le bord des routes, qui ont vu des hélicoptères qui jetaient des sacs avec des cadavres dans le fleuve Marañón. Donc elles n'ont pas vu 10 morts, comme le dit le gouvernement, mais bien plus, des dizaines et des dizaines.
La Fédération des producteurs agropecuarios y forestales del distrito de José Crespo y Castillo y Cholón, a través de su presidenta, Rosa Obregón Cárdenas.
Sinceramente, mis sentidas condolencias a nuestros hermanos del campo,
mes sincères condoléances à mes frères paysans, à nos frères natifs qui ne demandaient rien, ils attendaient là. Et qu'a fait le gouvernement d'eux aujourd'hui? Je voudrais profiter des ondes de Radio Amistad pour appeler d'urgence tous mes frères dirigeants à une réunion demain, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Nos frères du gouvernement ne peuvent pas continuer comme ça.
Desde Radio Amistad en Aucayacu, Perú, para la Red Informativa Nacional, Vladimir Angulo Vázquez.
El gobierno, por su lado,
le gouvernement de son côté
se a reafirmado en sus posiciones,
s'est réaffirmé dans ses positions. Le président a assumé une attitude complètement raciste et diffamatoire.
Ha señalado que los indígenas
il a dit que les indigènes étaient barbares et primitifs et que le leader des indigènes,
Alberto Pisangochota,
était un délinquant, était un criminel. Et donc ce leader vient de demander l'asile à l'ambassade du Nicaragua pour éviter la persécution et d'être mis en prison par le gouvernement. D'autre part, toutes les organisations indigènes du pays se sont mises d'accord pour continuer la lutte tant que le gouvernement n'accordera pas des dérogations pour ces décrets législatifs et ont déclaré qu'elles démarreraient un procès dès la fin du mandat du président. Elles ont annoncé une marche et une grève générale jeudi 11 dans toute l'Amazonie et dans tout le Pérou. Il y a donc une confrontation entre les peuples indigènes et le gouvernement présidé par Alan Garcia. Le fond du problème est que le gouvernement d'Alan Garcia, à travers ses décrets législatifs, essaye de privatiser l'Amazonie. La logique du gouvernement, tel qu'il le dit et tel qu'il l'a écrit publiquement, Alan Garcia considère que les territoires de l'Amazonie, et notamment les territoires indigènes, 11 millions d'hectares, sont des territoires, selon le président, abandonnés, inutiles, improductifs. Il a donc dit publiquement, il a écrit que la seule façon de rendre ces territoires productifs et qu'ils participent au développement national, c'est avec des investissements privés, de la technologie, et cela, seules les grandes entreprises peuvent le faire. La logique du gouvernement est donc de privatiser l'Amazonie.
C'est
une région de 74 millions d'hectares, les céder aux entreprises multinationales pour la production de biocarburants, pour la capture de CO2, de carbone. Tout cela se déroule dans la logique de la crise capitaliste internationale. Les spécialistes ont signalé que l'économie post-crise serait une économie basée fondamentalement sur les ressources de l'eau, de l'énergie et de biodiversité. Et ces ressources se trouvent dans la région d'Amazonie, en Colombie, au Pérou, au Brésil, sur les territoires indigènes. Donc, comme en Colombie, il s'agit d'exterminer les indigènes, les expulser, pour que les multinationales et les grandes entreprises s'installent dans nos territoires pour profiter de ces ressources fondamentales dans cette économie globale du 21e siècle.
Ay, ¿cómo es eso? Cosa y cartenca y vida le agua en mí. Tiari es mi, sayari es mi. Amarás tatay, amarás cosa y puyerita y taj churari cosa. Tiari es mi, amaña puñicuy. Y ma puñunca, happy puzunki, guaño y puñunca, happy puzunki, tiari es mi, amaña puñicuy. Amarachtatay, uyariri guay, mana is mi chu, uchaini yoka, ñoca sapitay, sipiriri guay, tiari is mi, sayari is mi.
Il est 8h du matin au Pérou et aujourd'hui, le 11, ce 11 juin est une grande journée de manifestation suite aux affrontements violents de vendredi dernier qui ont fait des dizaines et des dizaines de morts, notamment parmi les forces de l'ordre. L'exploitation de l'Amazonie provoque ces violences et suscite l'opposition résolue des communautés indiennes du Pérou face à leur exploitation minière, exploitation forestière, et il se pourrait bien que ces indigènes, entre guillemets, qui se battent évidemment pour leurs droits, pour leur territoire et pour leur bien, se battent aussi pour nous si on suit le raisonnement qui vient d'être celui de Roger Rourmil, cet anthropologue. Je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de flics qui ont été tués au cours de ces affrontements, donc dans cette région de l'Amazonie péruvienne. Et je le disais, les manifestants, ceux qui soutiennent les manifestants, déplorent la mort des policiers. Évidemment, c'est pauvre contre pauvre. Voilà, sur la radio, le témoignage du père d'un policier tué.
Le père du policier tombé dans la zone de Bagua, don Héctor Núñez Carrizaya, a manifesté une profonde douleur suite à la perte de son fils. Il s'est montré indigné et a rendu responsables les autorités et le gouvernement pour la mort de ses policiers et de ses indiens natifs. Je suis extrêmement indigné par tout ce qui s'est passé. D'abord, je veux dire que les plus hautes autorités, comme le gouvernement, ont provoqué ce qui est arrivé par l'incompréhension et par le refus de prendre en compte les revendications des indigènes. Cela n'aurait jamais dû arriver. Mon fils a été cruellement assassiné par des gens sans scrupules. Concrètement, ils l'ont envoyé, comme on dit, à la boucherie. Pourquoi ont-ils commis cette erreur? Ils pouvaient négocier avec les indigènes de Bagua. Mais ils ne l'ont pas fait, ils ont attendu qu'il y ait des morts, et encore plus de morts. Les policiers sont allés accomplir leur devoir, le devoir constitutionnel, un devoir constitutionnel. Mon fils et beaucoup de ses compagnons ont été sacrifiés par des caprices du gouvernement. Le gouvernement aurait pu résoudre ce problème avant que tout ça n'arrive. C'est pour ça que je suis très en colère contre tous ces hommes politiques qui ont attendu que meurent beaucoup de personnes innocentes, qui défendaient leur patrie, qui défendaient l'ordre et qui ont été sacrifiés.
La Red Informativa Nacional reportó Alberto Portugal Vélez desde Radio Altamar en Hilo, el gran diamante peruano.
Le Copacabana Hotel, nous y voilà. Mais je ne sais pas s'il n'a pas été restauré, en fait. On va voir ça de plus près. En tous les cas, c'est un lieu historique où, en 1967, Ramon a dormi. Voilà, Ramon. Ramon n'était nul autre que Che Guevara. Eh oui, chacun ses lieux de pèlerinage. Nous revoilà à La Paz, sur les traces de Che Guevara. Et on va rencontrer, j'espère qu'on aura le temps d'ici à 16h, deux vieux militants. Deux vieux militants qui ont des destinées différentes. Et vous verrez, deux destinées qui ont bifurqué et qui sont liées à l'histoire de la Bolivie et l'une de ses destinées liée à celui qui, effectivement, à la fin de l'année 66, a séjourné dans cet hôtel, l'hôtel Copacabana à La Paz. Ce qui est assez curieux, c'est que
c'est pas tellement connu, c'est pas tellement su, tant mieux pour l'instant. C'est une péripétie assez extraordinaire. En 66, Che Guevara rend son portefeuille du ministre du Travail à Fidel Castro et il part en Bolivie dans le but de créer un foyer insurrectionnel On Dos Tres Vietnam. Et pour ce faire, il est maquillé et déguisé en homme d'affaires. Ramón Benitez, c'est personne d'autre que Che Guevara qui débarque à La Paz et il échappe à la CIA qui a eu vent de cette expédition. Il prendra ensuite le maquis, etc. Enfin, ça, c'est la suite de l'histoire que vous connaissez, la Higuera, Valle Grande et la fin de Che Guevara. Mais pour l'instant, nous sommes dans l'hôtel, dans la chambre où il a séjourné.
Est-ce que vous savez de quand date l'hôtel? Quand est-ce que l'hôtel a été créé?
Este hôtel, pues, está hace ya de más de 50 años ya.
Ça fait plus de 50 ans qu'il existe.
50 años.
Plus de 50 ans.
Passe.
C'est par là.
Esta es la habitación.
Ici, c'est la chambre.
Voilà la chambre du Che. Et il y a une photo où il se photographie lui-même.
Parece que era de acá que le sacaron la photo porque él estaba sentado allá.
Pero la photo qu'on connaît, il était assis sur le fauteuil là-bas.
Sí. Un fauteuil là.
Et puis il a été pris en photo d'ici.
Algo por ahí, Ramón. Ha venido pues de desconocido, ¿no?
Donc Ramón est venu sous une autre identité, donc sí. On l'appelait Ramón, nous, ici.
Voilà, c'est cette porte vitrée. Et il est assis là. Il est assis dans ce fauteuil. Il ouvre la porte. Un petit peu comme ça. Et il a un appareil comme ça, tu vois, ça doit être à peu près ça. Il semble que c'est celle-là.
Si, era un autoretrato que se hizo.
C'est un autoportrait qui s'est fait ici.
Avec son appareil photo.
Ramón.
A quien filmado esa película?
Alors ici, ils ont filmé un film ou un court-métrage sur le Che, alors.
Todo esto han cambiado.
Ils ont tout refait à l'identique.
Ah, le même papier, le même truc. N'empêche que novembre 1966. Quand le Che sort de là, de l'hôtel Copacabana, la chambre 34, à l'époque c'était la chambre 34, il n'a plus qu'une petite année à vivre.
Si. C'est quand ya después se fue pues, a donde perdió la vida, pues, Che Guevara.
Et après il est parti à Valle Grande et c'est là qu'il a perdu la vie.
Il a pris cet ascenseur. Il a attendu l'ascenseur, comme nous, le Che. Ramón. Avec ses grosses lunettes, sa coiffure bizarre, méconnaissable. Enfin, en tous les cas, les services ne l'avaient pas reconnu. Et là, il y a un gars qui tient un stand de livres. Alors, c'est un petit stand, hein. Un bout de plastique rouge posé au sol. Et il a des bouquins. Alors, des petits bouquins, hein, pas épais, qui ne doivent pas être chers non plus. Iglesias Hypocritas. Iglesias Hypocritas. Ça ne doit pas être très sympa pour les curés. La gaseosa más peligrosa del mundo.
Le soda le plus dangereux du monde.
Coca-Cola. On aurait dû poser la question, mais la réponse venait tout de suite. Depuis 2005, début 2006, la Bolivie s'est lancée dans un programme d'alphabétisation et on nous garantit que c'est un succès. Aujourd'hui, la plupart, sinon la totalité des Boliviens et des Boliviennes savent lire. Un progrès formidable. Et là, on est à La Paz, on est dans ce congrès paysan et ce qu'on n'avait pas remarqué, qui manquait dans ce genre de grands congrès, de réunions syndicales, etc., ces grands mouvements. Ben, il y a toujours des marchands de bouquins, il y a toujours des livres. Nous, enfin, dans notre option, façon de voir les choses. Et là, non, il y a juste une petite portion congrue dans un coin, ce qui ne manque pas, évidemment, de nous surprendre. Antoine et moi, et nous allons engager la conversation avec le vendeur, qui est aussi l'éditeur et qui est aussi l'auteur de certains bouquins. Écoutez bien.
Estuvo junto al Che, c'est quoi? Les écrits de jeunesse?
Estuvo junto al Che, il était avec le Che.
Compañero el Ernesto Che Guevara.
Voilà, moi j'étais compagnon d'Ernesto Che Guevara.
Yo no sabía quién era el Che.
Moi je savais pas qui il était.
Sabía que era Ramón. Yo siempre conocí como Ramón.
Mais moi je savais uniquement qu'il s'appelait Ramón et je l'ai toujours appelé Ramón. Je l'ai toujours connu en tant que Ramón.
Quand il était ici en Bolivie.
Claro.
Tout à fait.
A mes 19 años.
J'avais 19 ans.
Et comment vous avez rencontré Ramón?
A través del Partido Comunista, yo fui conectado, vinculado.
Moi j'étais connecté, j'étais en lien avec lui à travers le Parti Communiste.
Mario Monge Molina, primer secretario del Partido Comunista para entonces.
Voilà, c'était le premier secrétaire du Parti Communiste qui m'a mis en contact.
21 de enero del 1967.
Le 21 janvier,
llegamos al campamento en la montaña.
Et après au campement dans la montagne.
Allí encontré como 17 cubanos y entre ellos el Ramón.
Alors là, dans le campement, il y avait 17 cubains et parmi eux, il y avait Ramón.
Yo no podía preguntar quién era exactamente porque había que tener absoluta reserva por el problema de persecución, problema de la CIA.
Moi je pouvais pas demander qui il était exactement parce qu'on était persécuté par les forces de l'ordre et par la CIA.
Claro, gobierno de Barrientos.
C'était le gouvernement de Barrientos, tout à fait.
Tu es resté combien de temps avec Ramón?
5 meses juntos.
On a été 5 mois ensemble.
Tu avais compris?
Enero, febrero, marzo, abril, fines de abril.
De janvier
nos separamos
à la fin
en dos grupos.
Là, on a fait deux
nos
groupes.
Dejan en retaguardia al manto de Joaquín.
Nous, on est resté à l'arrière-garde.
Él se va con 26 hombres.
Lui, il est parti avec 26
hommes. Y no podemos reagruparnos.
Et on n'a jamais plus retrouvé.
Quand est-ce que tu as appris sa mort?
En la prisión me sorprendieron de su muerte.
C'est quand j'étais en prison que j'ai appris sa mort.
Combien de temps tu es resté en prison?
1970, cuando General Juan José Torres, gobierno popular dicta amnistía, nos libera igual que al Regis de Brey.
Jusqu'en 70, où le général Juan José Torres a octroyé l'amnistie, et notamment à Regis de Brey aussi.
Tu as connu Regis de Brey?
Claro.
Bien sûr.
Hablamos.
On a discuté ensemble.
Bueno, discutir no podíamos discutir nada, porque yo era novato político.
Bon, en disant qu'on discutait pas vraiment, parce que moi j'étais vraiment un débutant en politique.
Claro. Solo mi idea era buscar la justicia y libertad.
Ma seule conviction, moi, c'était chercher la justice et la liberté.
Comment c'était la vie en prison avec Régis Debray?
En diferentes celdas, en diferentes ambientes.
On était dans des cellules différentes.
Nos veíamos cada día casi.
Mais on se voyait quasiment tous les jours.
Ah, et qu'est-ce que vous racontiez?
Non, casi no hablábamos. Porque él hablaba mal castellano hasta lo francés. Yo soy aymara, que no hablo bien el castellano.
L'espagnol, et puis moi je suis aymara, donc je parle aussi mal l'espagnol.
Et lui, il parlait pas aymara.
No, pues, difícil.
Pas du tout, c'est difficile.
Nel Che hablaba aymara. Entonces no nos entendíamos los cubanos.
Le Che non plus, il parlait pas aymara, donc on avait du mal à se comprendre avec les cubains.
Tu as été condamné à combien d'années de prison?
No tuvimos proceso. Simplemente detenido arbitrariamente en la cárcel militar de Camire.
A la prison militaire de Camire.
Tres años y medio.
Tres años.
Et on est resté trois ans et demi.
Qu'est-ce que tu faisais en prison? Alors, tu lisais en prison? C'est là que tu as commencé à lire ou tu lisais déjà avant?
En la cárcel.
Dans la prison, oui, tout à fait, j'ai appris tout ça.
En la cárcel. Et luego, 1971, se produce golpe militar fascista. Donc de Banzer.
En 71, il y a eu le coup d'état fasciste de Banzer.
Otra vez me detienen.
Et à nouveau, ils m'ont mis en prison.
Otra vez las torturas.
À nouveau, j'ai été torturé.
Toi, tu étais quoi?
Dirigeant syndical.
Moi, j'étais dirigeant syndical.
T'es resté combien dans la prison de Banzer?
Dos años.
Encore deux ans.
Nuevamente, 76, me tienen preso.
Et en 76,
mismo Banzer.
À nouveau, Banzer me remet en prison.
Il t'aimait beaucoup, ce Banzer.
Así que, a golpes, yo soy revolucionario moldado.
Donc moi je suis vraiment forgé comme un révolutionnaire.
Vino 1980 otro golpe. Pero ya me fui a la clandestinidad.
Il y a eu encore un coup d'état, mais là je suis parti dans la clandestinité.
De la clandestinidad hacemos la resistencia antifasciste.
Et là on a monté un réseau de résistance antifasciste contre le dictateur García Mesa.
Tiens, ça c'était le copain de Klaus Barbie, non?
Luis García Mesa, qui est ahora en la cárcel de Chonchocoro.
Il est en prison maintenant, Luis García Mesa.
Chacun son tour, chacun son tour.
Ojalá que le toquen también a otro estar en la cárcel.
Oui, oui, ben j'espère qu'il y en aura encore d'autres qui vont passer par la casse-prison.
Alors voilà, un type bien, hein, quand même, un combattant antifasciste, forgé comme un révolutionnaire, dirigeant syndical, dont la conviction est de chercher la justice et la liberté, formidable. Eusèbe, avec ses livres et cette conversation, tout le monde est autour de nous, s'interroge, admire. Mais écoutez la suite. Et dis-moi, comment tu choisis les livres et les textes que tu édites?
Ahora soy ideólogo.
Oui, maintenant je suis un idéologue.
También soy filósofo.
Mais je suis philosophe aussi, hein.
Filosofías contradictorias.
Voilà les philosophies contradictoires.
Es mi idea, es mi expresión.
C'est mon idée, c'est mon expression.
Et tu parles de Karl Marx?
Ah, ¿quién fue Carlos Marx? Un judío.
Qui a été Karl Marx, un juif?
Eh?
Un judío.
Un juif.
Ah bon? C'est tout ce que tu dis sur Karl Marx?
Oui. Es lo que registre.
C'est ce que j'écris.
Et
son idéologie a été créée par les juifs. Haim Marduvai Kissel, alias Carlos Marx, Vladimir I. Blank Ulyanov, alias Lénine, Leiba Davidovich, alias Trotsky, Ademas, en plus Fernando Lassalle et Karl Kautsky, qui ont conspiré pour changer leur nom juif. Et le premier philosophe du communisme a été le juif Frédéric Engels. Bien sûr que, en distorsionnant les idées originales du philosophe germain Eugène Düring, la révolution bolchevique a triomphé par la trahison de Nicolas, par le biais de son homme de confiance, le juif Alexandre, Féodor, Kerensky, etc. etc.
Bon, c'est bien antisémite, ça m'a l'air furieusement.
La référence peut être encontrée en Europe même.
Ah d'accord, alors Karl Marx, il faut pacifier, quoi.
Voilà, et voilà, et voilà. Au bout de cette vie formidable d'engagement, etc., Eusèbe est devenu tout simplement antisémite. On est absolument consterné, on a la mâchoire qui tombe, Antoine et moi, et bon, allez hop, on va à la buvette. On est un petit peu décontenancé, mais vous allez voir que c'est pas toujours le cas quand même. On va se remonter le moral à Potosi avec une autre rencontre d'un vieux militant qui s'appelle El Diablo.
El 52 era más o menos jovenzuelo.
Moi, j'étais un petit jeune.
Vi la révolution.
Vous êtes né en quelle année?
Mais j'ai vu la révolution.
El 45.
Moi, je suis né en 45.
Yo estaba más o menos de unos 7 a 8 años. Ya vi la révolution.
J'avais 7-8 ans à ce moment-là.
Pas facile de rencontrer un mineur de plus de 60 ans à Potosi. Pas facile du tout, vous savez pourquoi, difficulté, de la mine, et les hommes meurent jeunes à Potosi. Mais on voulait quand même rencontrer quelqu'un qui pourrait évoquer la révolution de 1952, qui a été un très très grand moment dans l'histoire de la Bolivie, qui a vu la création du mouvement nationaliste révolutionnaire, le MNR, et un grand basculement dans la vie politique, sociale du pays. Voilà cet homme que nous rencontrons sur une place comme ça, avec un peu de soleil, à Potosi, et qui nous raconte ses souvenirs et cette révolution qu'il a vécue alors qu'il était enfant.
El 52, se hace el 9 de abril. Primero ha sido la revolución aquí en la plaza El Minero.
Donc ici, ça a été la révolution, ici, sur la place des
Mineros. Por la calle, cerca... cogía sangre.
Mais ils nous ont tiré dessus et le sang a coulé.
Que se ha desamado era para conquistar esta ley general de trabajo
et
que
tout
es
ce
actual,
sang qui a coulé, c'était pour acquérir justement des bénéfices sociaux.
Et tout ce sang qui a été versé.
Toda esa evolución se debe para conquistar las horas de trabajo, las ocho horas de
donc,
trabajo.
Toute cette révolution, c'était pour obtenir les 8 heures de travail.
Y más que todo era para nacionalizar las minas.
C'était aussi pour nationaliser les mines.
Para quitar de manos de la oligarquía.
Pour les retirer des mains de l'oligarchie.
Feudal minera.
Feudal
que era Rothschild, Patiño, Aramayo.
Les familles Patiño, Rothschild y Aramayo.
Han sido expulsados de este país.
Ils ont été expulsés de ce pays.
Y el 52, el 31 de octubre.
Le 31 octobre 52.
A nueve meses de la revolución, se firma la nacionalización de las minas.
On a signé la nationalisation des mines.
Y pasa a poder del Estado, que
donc
se llamaba
passe aux mains de l'État.
La Comibol.
Ça s'appelait la Comibol.
Corporación Minera de Bolivia.
La Corporación Minière de Bolivia. De Bolivia.
Quand est-ce que vous êtes rentré dans la mine, vous?
Yo he trabajado desde mis 17 años.
J'ai commencé à 17 ans.
Sí. Me siento tan feliz de haber trabajado de perforista. Era
très heureux d'avoir travaillé comme à ce poste-là dans la production.
Porque he servido al Estado.
Parce que j'ai servi l'État.
Todos los mineros de Comibol hemos generado divisas.
Tous les ouvriers de Comibol.
Hemos sido pilares de la economía.
On a été les piliers de l'économie.
Hemos aportado para la salud, la educación.
Donc, on a aidé pour l'éducation, pour la santé.
Bolivia se caracteriza un país minero.
Donc la Bolivie est avant tout un pays minier.
Gracias a Bolivia, que es un país minero, todo el mundo se han aprovechado.
Et grâce à la Bolivie qui est un pays minier,
en especial
minier,
los españoles,
tous les autres
los
pays ont profité de la Bolivie qui est un pays minier. Surtout les Espagnols, mais les Français et les autres aussi.
Qu'est-ce qui s'est passé pour vous pendant la dictature?
En los años de la dictadura era terrible.
Pendant les années de la dictature, c'était terrible.
Terrible cuando Banzer, Natush Bush, todos
quand,
los militares.
Quand Banzer et Natush Bush,
siempre era el impacto a los que se oponían.
Ils allaient toujours
y los
contre
mineros
ceux qui s'opposaient.
Oponer a los gobiernos de la dictadura.
Et nous, les mineurs, on s'est toujours opposés à ces gouvernements, à ces dictatures.
Porque hemos sido mal pagados.
On était
nunca
mal payés.
Nos pagaban un salario justo.
Ils ne nous payaient pas un salaire honnête.
Todo
juste.
Lo que sabíamos producir, el estaño se vendía afuera.
Tout ce qu'on produisait, l'étain, ils le vendaient à l'extérieur.
Todo el dinero que entraba en dólares era para el bolsillo de los gobernantes.
Et tout l'argent qui rentrait en dólares, ils se le mettaient dans les poches.
Y el impacto ha sido lo peor de la vida de la clase obrera.
Ça a été les pires moments pour la classe ouvrière.
182.
Mais les mineurs, on est restés unis et on a réussi en 82 à faire revenir la démocratie.
Y a título de democracia, desde el 82 y hasta el 2006, gobiernos de la derecha se han aprovechado.
Mais même en démocratie de 82 jusqu'à 2006, c'est des gouvernements de droite qui ont continué à profiter.
Se han vuelto ricos y los
sont enrichis.
Y los protagonistas que hemos sido de la democracia estamos más pobres.
Et nous, les acteurs du retour à la démocratie, on est restés pauvres.
A mí me ve. No tengo, he trabajado bastante tiempo en la mina, no tengo ni casetilla.
Moi, vous me voyez là, qui ai travaillé toute ma vie à la mine, vous voyez, j'ai même pas une brouette à moi.
Oui, mais c'est qu'après la dictature, vous avez une autre dictature qui a été le néolibéralisme, qui a tout fait pour détruire ce que vous aviez construit avec votre révolution.
La derecha, haciendo sus pactos por Bolivia, decían, eran dueños,
selon eux, pour la Bolivie, mais c'était les patrons de tout.
Del poder político,
du pouvoir politique
y del poder económico,
et du pouvoir économique. C'était les patrons, les propriétaires.
Gracias, el pueblo cansado de tanto engaño,
mais heureusement, le peuple, fatigué d'autant de tromperies,
el 2006, salimos a las elecciones y ganamos con este gobierno.
En 2006, a voté pour ce nouveau gouvernement.
Es mejor que la derecha, por lo menos, está dando algunos beneficios al
pueblo.
C'est mieux
que la droite, parce que de toute façon, il donne quelques avantages au peuple.
Hay un beneficio que llaman bono de dignidad. Le están
y a 200 pesos. Il y a un avantage qu'on appelle le bon de la dignité. C'est 200 bolivianos.
Al adulto mayor que tiene los 65
qui
años.
Qui donne à tous les adultes de plus de 65 ans.
Oui, oui. Mais vous, comme mineur, vous avez combien de retraite?
A mí de minero me dan 800 a 1000 bolivianos.
Parce que moi, on me donne à peu près 800 ou 1000 bolivianos par mois.
Entonces, de alguna forma, está yendo beneficiando al pueblo
donc,
económicamente.
Tout ça, c'est des avantages économiques pour sí. le peuple.
Y esperamos mucho desde nuestro gobierno que haga las cosas como él lo dice,
mais
que
on attend
es
beaucoup
comunista.
Qu'il sí. fasse ce qu'il dit en tant que communiste. Sí.
Lo único que me recomienda el hijo menor, me dice, papá,
c'est mon petit-fils, te félicito. Mon plus petit, il me dit, mon père, je te félicite.
Te felicito lo que has sido minero, porque muchos
de tus
amigos
d'avoir été mineur.
Me dicen que has sido un buen comunista. Ojalá. No
mais
te
aussi,
cambies más nunca de lo que eres.
Mais aussi, tu as été un bon communiste et ne change pas.
Et El Diablo, il s'appelle. Et voilà, le récit d'une vie accomplie, une vie de lutte. Demain, on rencontrera le vice président de la Bolivie, Alvaro Garcia, qui évoquera, avec qui on évoquera beaucoup des sujets qu'on a abordés au cours de ces reportages. Mais on veut en finir d'abord avec El Diablo et le Che, bien sûr.
Est-ce que tu te souviens de la mort du Che?
Todavía yo trabajando.
Moi, à cette époque-là, je travaillais encore à la Comibol.
Yo me recuerdo que en ese año, cuando estábamos en el Congreso aquí en.
Moi, je me rappelle que cette année-là, on était en
minero,
congrès,
centro
ici,
minero.
La mine de siglo XX.
Se hicieron la represión fuerte.
Il y a eu une répression très dure.
Y el 23 de junio, la noche de San Juan.
Et le 23 juin, la nuit de la Saint-Jean.
La masacre de San Juan a los mineros vagientos ha masacrado con el argumento de decir.
Et cette nuit-là, Barrientos, le dictateur, a ordonné un massacre chez les mineurs.
Con el argumento de decir que los mineros estamos apoyando a la guerrilla.
Et l'argument de Barrientos était que les mineurs étaient en train d'appuyer la guérilla.
Muchos compañeros han sido inmolados la noche de San Juan.
Et beaucoup de camarades ont été assassinés ce soir-là.
Y está en la memoria fresca de todos los trabajadores.
Et ça restait dans la mémoire de tous les travailleurs.
Siempre el día del minero es el 21 de diciembre.
Et de la même façon, le jour du mineur, le 21 décembre.
Los obreros decimos siempre con los principios marxistas.
Et on dira les ouvriers avec les principes marxistes. Adelante, en avant.
Toda la vida.
Y toute la vie.
Y hasta la batalla final.
Et jusqu'à la bataille finale.
Merci à El Diablo, merci à tous. C'était un reportage avec Antoine Chao. Montage Agnès Lebot. Merci à Roger Romeril, à Franck Poupeau, à Serge Casares, à Pascal Le Apsi, Elia Kairès de l'association France-Amérique Latine. À lire La Grande Révolte Indienne d'Yvon Lebot aux éditions Robert Laffont. Toutes les informations et la bibliographie est disponible sur le site de France Inter, la rubrique émission Là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission pendant 24 heures et faire des commentaires. Vous pouvez la réécouter également sur là-bas.org, beaucoup plus longtemps, vous avez tout le temps pour la réécouter, et là aussi faire des commentaires que vous souhaitez. À la technique aujourd'hui, Eric Morin et Michel Bézikian, c'est Koye Nguyen et Raphaël Moutet qui ont réalisé cette émission, assistée de Charlotte Perry et Agnès Lebot. Attend vos messages au répondant de là-bas si j'y suis, au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.